Salut, salut, bienvenue à cette édition spéciale du Café OBN présentée par Nespresso. Une édition un peu spéciale aujourd'hui parce que je serai seul, Alex Régimbal, en votre compagnie. Nicolas Richard est occupé dans ses fonctions à Toronto et Hugues Léger joue un tournoi à Pointe-Claire, une finale des vétérans 50+. Alors, ce sera bonne chance. On veut souhaiter bonne chance à Hugues Léger pour cette finale-là. Il va venir nous joindre pour la présentation des matchs en direct par la suite parce qu'on va diffuser cette demi-finale et finale. Et ça, même si on est dimanche, oui, vous avez bien compris, on va diffuser un match de demi-finale parce que hier, la pluie a retardé les choses. On a décidé d'annuler la session. Alors, le match opposant Samsonova à Rybakina aura lieu aujourd'hui. Et ça, ce sera un peu compliqué pour ces deux filles-là parce que la gagnante devra jouer un deuxième match dans une même journée pour remporter ce tournoi-là. Alors que Jessica Pegula, elle, attend depuis le milieu de la journée de savoir son adversaire. Alors, elle va arriver avec beaucoup plus de repos. Comme je disais, c'est une édition où je serai seul et on va faire un peu ce qui va se passer à Montréal et également, on va aller voir ce qui va se passer du côté de Toronto, du côté de la finale. Mais commençons avec ce qui s'est passé hier entre Pegula et Świątek. On s'attendait à un feu d'artifice, on s'attendait à un match complètement spectaculaire. On a eu un match un peu plus en demi-teinte, un match beaucoup moins de rythme et surtout, on a eu 18 bris de service. Et ça, c'est rare au tennis que les filles aient de la misère à garder leur tennis, à garder leur service de façon aussi difficilement. En fait, si on peut le dire comme ça. Alors, ça a été compliqué pour les deux joueuses. Ça a été un jeu erratique autant pour Pegula que Świątek. Au final, c'est Jessica Pegula, l'Américaine, qui après avoir subi deux défaites en demi-finale, ce sont des bons résultats au Canada, mais elle va atteindre finalement sa première finale. Elle aura la chance de remporter un deuxième titre WTA 1000 dans sa carrière. Elle avait déjà remporté le tournoi de Guadalajara. Alors Jessica Pegula qui a remporté ce match de demi-finale-là, elle était vraiment, vraiment contente. Et si vous voulez bien, je vous propose de l'écouter.
Yeah, I feel great. Obviously, always nice to be the number one player in the world and also to make it to the final. It was a great match. It was tough. Kind of a roller coaster, really up and down, but glad I was able to hold my nerve there at the end.
First question. Have you ever been in a match where both players have had difficulty holding their serve? And do you have any idea why?
I'm sure it's probably happened before. I don't know why this week all of us seem to be really having trouble, even girls that are considered the best servers on tour. It's weird. It feels like the conditions, it's flying a little bit, it's swirling. I know it's also the first week we're playing with the Wilson extra duty balls, which are usually what the men play with. And so that's the first time we're testing that out this week, next week, and through the US Open. So I think they're a little bit heavier, so they're not quite coming off the racket as well. Maybe we're not used to it. So I think maybe that's why. Also, it's just a change in the balls.
What's the ball again?
We're using Wilson extra duty. Usually we use regular duty. So they switched it this year.
Even US Open.
Yes.
Next question.
You lost in the semis the last 2 years in Canada. Third time's a charm, I guess, for you?
Yeah, I hope so. I hope third time's a charm. Yeah, to win the tournament as well tomorrow. But I've always played really well here, and I've lost a couple tough matches in semifinals here as well. So, I remember I lost like a tough one to Halep last year and then another one to Georgie. So, again, they both went on to win the tournament. So I hope that means that I can get the win tomorrow.
Just wondering what was going through your head when – you know, you had the chance to serve in the match a lot earlier and then you lost that. And how'd you get it back together?
Yeah, I don't know. I felt like if I could have held to go at 5-3 in the second, like I could have broken her, judging by the fact that I was breaking a lot. But she hit one good return and then I made a bad forehand error it was swirling with the wind and I kind of took my mind off of it. And, so then that kind of happened, and I felt like then after that she started to play really well. Even though I served for it at 5-4, I thought she played like a great game. She hit like two lines and just went for her shots, and sometimes that just happens. And then in the third, I got down a break. I was getting frustrated that I wasn't holding, but then at the same time I knew she was having trouble holding as well. So I just wanted to keep, just hold that game, and I was like, I'll get more chances if I can just – hold. So that was just basically, it was whoever could kind of consolidate the break. So yeah, mentally, it was just trying to play the right spots on your serve, make first serves. I don't know. Sometimes it feels like it's really difficult, and then sometimes you hold easy. So I don't know really what it is, but I think it's just trying not to get too frustrated.
In the tie break of the second set, you were leading 4-2, and then there was the mistake by the DJ, and she went to win the five next point to win the set. Did it derange you?
I just thought it was funny. I've never had that happen, let alone with Cotton Eye Joe. I was like, is this really happening right now? Like, of all the songs, it was just like, what is going on? But no, I mean, yeah, it was a bummer because I hit a really good lob and she barely got it. And I had a really good play on the ball and she was kind of out of position from the lob that I hit. So, I mean, I don't know if I would have won the point. Maybe I would have been up 5-2, but that doesn't mean I'm going to win the tiebreaker. I think the wind started shifting. So like, it was really, I felt like I was really against the wind on that side, the side that that point happened on. So she was playing really aggressive and I was kind of on my back foot a lot for the rest of that tie break. So again, I felt like I told myself going into the third, I need to play more aggressive on that side and really try to get better depth on my shots. And then on the other side, it was kind of the opposite. Like, you don't have to go for as much because I was with the wind. So I think, yeah, it was tough switching sides. Yeah, maybe that point would have been nice, but you know, you don't know really what's going to happen.
Alors, c'était le commentaire de Jessica Pegula qui est revenue sur quelques éléments, notamment les bris de service. Elle a dit que ça pouvait être expliqué peut-être par le changement de balles parce qu'ils ont décidé de jouer avec les mêmes balles que celles des hommes qui sont un peu plus lourdes et les balles ne sortent pas aussi bien, aussi rapidement que la raquette où les joueuses ne sont pas tout à fait habituées encore à cette nouvelle balle. Alors, c'est ce qui peut-être pourrait expliquer les multiples bris de service. Il y en a eu 18, c'est très rare qu'on voit ça. Jessica Pegula qui dit, ce sera peut-être, j'ai été éliminé deux fois en demi-finale ici et les deux fois, les filles qui m'ont battu ont finalement remporté le tournoi. Alors peut-être que ce sera une troisième fois chanceuse pour moi et elle partira certainement avec un avantage parce que la fille qu'elle va affronter va avoir joué au moins un autre match et va avoir vu sa routine de jeu être particulièrement perturbée hier. Alors ça va être bien intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Bon, parlant du match à venir aujourd'hui, parce qu'il y aura cette diffusion de match à 13h30 sur les ondes de BPM, il y aura un avant-match à 13h, et ce sera en premier lieu cette demi-finale entre Samsonova et Rybakina, deux grandes joueuses, deux bonnes serveuses, et Rybakina, elle est la mieux classée, elle est championne de Grand Chelem, elle est quatrième mondiale, elle a déjà été troisième mondiale, elle va affronter Samsonova qui est 18e mondiale, et là, on regarde l'affiche comme telle et on se dit, Rybakina part grande favorite, mais attention parce que Samsonova a remporté les deux premiers duels entre les deux joueuses et les duels remontent pas à il y a si longtemps. C'était à septembre 2022, Samsonova à Tokyo, elle avait battu Rybakina. Et l'autre match entre les deux joueuses, ça se passait ici même à Montréal en 2021 et une fois de plus, Samsonova l'avait emporté. Alors, vous pouvez peut-être lancer un 30 sous dans les airs, comme on dit, pour voir qui pourrait remporter ce match-là. C'est d'ailleurs ce que Jessica Pegula a mentionné là, dans sa conférence de presse un peu plus tard quand on lui a demandé ce qu'elle pensait de ses adversaires. Et elle a dit, je pense que ça va être un match bien intéressant et c'est très, très, très difficile de prévoir qui va gagner ce match-là. Alors, ce sera bien intéressant de voir qui va gagner. Est-ce que Rybakina va atteindre une autre finale d'un grand tournoi? Est-ce que Samsonova se donnera une chance de remporter peut-être le titre le plus important de sa carrière? Ça, on va voir. Ça va être intéressant. On va aller faire un tour du côté de Toronto cette fois. Alex Deminor a battu Davidovic Fokina et ça, c'est bien intéressant parce que Deminor, ça fait longtemps qu'on l'attend et là, il a beaucoup de titres, il est encore jeune, mais il va se donner une chance de remporter un grand titre, lui, dans sa carrière. Il a connu tout un tournoi, Deminor, alors qu'il a battu notamment le Canadien Gabriel Diallo, mais il avait un tableau particulièrement complexe et il a répondu aux attentes Alex Deminor alors qu'il a battu Tommy Paul et il a battu Cameron Norrie, pardon, Taylor Fritz, Daniil Medvedev et Davidovich Fokina. En plus de battre un Canadien à la maison, il avait un tableau démoniaque. Il va affronter Yannick Sinner en finale. Écoutez, la façon dont on regarde les choses, il va arriver dans cette finale sans complexe, même si Yannick Sinner, il est favori a priori. C'est un joueur totalement spectaculaire. Mais avant de vous parler de Yannick Sinner, je vous propose d'écouter une clip en français de Alex de Minaur. C'est le collègue Nicolas Richard à Toronto qui lui a parlé.
Question fort simple. Où est-ce que vous avez appris à parler français et comment vous le pratiquez pour toujours pouvoir le parler?
Oui, je l'ai appris à l'école. Il fait beaucoup de temps que je l'ai appris. Je ne parle pas beaucoup. Mais maintenant, j'habite à Monaco et je dois parler un peu plus. Mais je ne parle pas beaucoup parce que je ne suis pas trop confiant. Dans cette langue, je parle plus l'anglais et l'espagnol. Merci.
Alors, Alex de Minaur qui parle très bien français, il vit à Monaco et c'est ce qui explique que maintenant, il parle beaucoup plus français. Alors, c'est intéressant. C'est pas rare qu'on voit ça chez les joueurs de tennis, honnêtement. C'est un sport tellement international que c'est pas rare que plusieurs parlent plusieurs autres langues. Yannick Sinner a eu tout un parcours, lui, pour affronter Alex de Minaur. Il a battu Matteo Berrettini au premier tour. Ce sera d'ailleurs l'affrontement de premier tour de Félix Auger-Aliassime à Cincinnati. Matteo Berrettini. Il a battu Andy Murray qui s'est retiré en fait. Alors, il n'y a pas eu de match. À la suite, le spectaculaire Gaël Monfils et Tommy Paul qui venaient de connaître tout un tournoi. En fait, Tommy Paul, s'il pouvait jouer tous les tournois au Canada, il le ferait parce que ça fait 2 ans de suite qu'il bat Carlos Alcaraz à Montréal et à Toronto. Alors, il a connu tout un tournoi une fois de plus, Tommy Paul, bien au-delà de ce qu'on pouvait espérer, surtout quand tu as le numéro 1 mondial et champion de Wimbledon dans ton parcours. Du côté de la finale, à quoi s'attendre du côté de Deminor contre Yannick Sinner? Yannick Sinner, il est 8e mondial. Il a tout un tournoi, comme je mentionnais précédemment. Et surtout, il a une fiche de 4-0 contre Alex de Minaur. Alors ça risque d'être compliqué pour de Minaur. Ils se sont affrontés 3 fois sur surface dure, dont une fois en Australie l'année passée en Grand Chelem. Et Sinner l'avait emporté en 3 manches. En fait, pour l'essentiel, Sinner domine complètement cette confrontation-là. Mais de la façon dont de Minaur a joué, il va peut-être se donner une chance de gagner. Cela dit, ce qu'il faut garder en tête, c'est que de Minaur a passé beaucoup plus de temps sur le terrain que l'a fait Yannick Sinner depuis le début du tournoi. On parle de 9h19 sur le terrain pour de Minaur et 5h48 pour Yannick Sinner. Par contre, le dernier match a été plus long pour Yannick Sinner, alors 1h56, alors que c'est 1h17 pour Alex de Minaur. Est-ce que ce sera une première victoire pour de Minaur et un grand titre en Masters 1000 ou est-ce que Sinner, lui aussi, mettra la main sur un titre particulièrement important? On verra. Je suis bien curieux de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. C'était cette édition spéciale du Café OBN présentée avant cette demi-finale à Montréal. Je vous rappelle que la demi-finale et la finale sera présentée sur les ondes de BPM Sport. Alors, je vous invite à écouter Anthony Marcotte, moi-même et Hugues Léger. Et sur ce, en mon nom, Alex Ray-Gimbal, je vous salue et je vous dis à lundi.